Réplique, paroles de femmes, avec Geneviève Fraisse et Peggy Sastre. Le 5 octobre 2017, paraissait dans le New York Times un article qui accusait le producteur américain Harvey Weinstein de harcèlement, témoignage d'actrice à l'appui. Quelques jours plus tard, on apprenait, dans une longue enquête du New Yorker, que l'homme qui faisait la pluie et le beau temps à Hollywood se serait aussi rendu coupable d'agressions sexuelles et de viols. Depuis ces révélations, c'est la déferlante. Des centaines de milliers de femmes ont brisé le silence et raconté ce qu'elles ont subi sur les réseaux sociaux MeToo et Balance ton porc. Cette spectaculaire libération de la parole a fait dire à Geneviève Fraisse que nous vivions un événement avec un E majuscule. Mais le front féministe, en France au moins, s'est fissuré. Le 12 janvier de cette année, Le Monde publiait une tribune qui, sous le titre « Des femmes libèrent une autre parole », mettait en garde contre les amalgames, les mises au pilori sans procès et le risque d'un retour du puritanisme. Peggy Sastre est l'une des rédactrices de ce texte auquel la signature de Catherine Deneuve a donné un retentissement planétaire. Je remercie vivement Geneviève Fraisse et Peggy Sastre d'avoir accepté mon invitation, car le débat est toujours préférable aux anathèmes, et celui-ci ne peut que nous aider, qui que nous soyons, et quels que soient nos partis pris, à réfléchir plus intelligemment. Pour commencer, je voudrais vous demander, Geneviève Fraisse, de définir l'événement dont vous avez, d'entrée de jeu, salué et souligné l'importance. Geneviève Fraisse.
Oui, merci Alain Finkielkraut. Effectivement, c'est d'entrée de jeu, puisque je crois que mes premières interventions sont aussi de mi-octobre. D'entrée de jeu, pourquoi ? Peut-être parce que je suis effectivement familière de l'histoire de la pensée féministe depuis un certain temps. C'est ce qui me permet de dire que la parole ne s'est pas libérée, mais que les femmes ont pris la parole. Je vois pas pourquoi on leur donne un passif alors qu'elles sont actives. Et elles sont actives, on le voit tout de suite, donc deuxième raison que ça soit un événement, elles sont actives au pluriel. Le féminisme se caractérise par le « nous » et pas par le « je ». Donc ce « nous », qui est un pluriel socio-économique d'ailleurs, puisque ça vient d'une certaine catégorie socio-professionnelle, donc je dis ça, c'est parce que pas nécessairement les réseaux sociaux, mais d'abord la possibilité économique et sociale de prendre cette parole, ça c'est la première chose qui fait que c'est un événement. La deuxième chose, plus importante pour moi, d'une certaine façon, c'est que ça s'inscrit dans une histoire longue, généalogique, comme j'aime les faire, où il y a eu 2 siècles de reprise pied à pied de l'égalité des droits, qu'ils soient civils, puis civiques, puis professionnels, puis familiaux, et que nous étions arrivés autour des années 2000, dans ce moment où on sait que le formel ne fait pas le réel. C'est-à-dire que c'est pas des lois qui changent la réalité. Résultat, on a eu, ce que j'ai pas mal critiqué par ailleurs, même si ça a des valeurs et de l'importance, la critique des images, comme si, de manière un peu perdue, les femmes qui voulaient donc changer le monde, c'est-à-dire produire plus d'égalité des sexes, se retrouvaient à attaquer les images puisque la loi ne suffisait pas. Ça m'a paru relativement symptomatique de ce tournant. Et ce tournant, donc 15 ans après les années, le millénaire, s'avère être ce surgissement des corps, collectifs, ce que moi j'ai lu ici ou là comme étant finalement un soubassement du contrat social, comme quelque chose d'implicite, de caché sous le contrat social, et qui ferait surgissement au XXIe siècle. D'ailleurs, on n'a pas que ce corps-là, le corps violenté ou violé, qui apparaît, mais aussi le corps de la reproduction, PMA, GPA, et le corps des sexualités, c'est-à-dire avec la possibilité donc, de ne pas correspondre uniquement à la binarité de la sexualité telle qu'elle est énoncée. Donc le XXIe siècle est sans doute le siècle du corps des femmes. Donc cet événement me paraît être dans une cohérence totale avec une sorte d'historicité que moi sur laquelle je travaille.
Peggy Sastre, quelle est votre réaction ? Vous affirmez féministe aussi, je crois ?
À peu près.
À peu près. Mais en tout cas, les 100 femmes qui ont signé, parmi les 100 femmes qui ont signé, il y a beaucoup de... Votre pétition.
Tout à fait. Votre tribune.
Il y a beaucoup de féministes attitrées. Mm-hmm. Et voilà, expliquez-nous votre réaction. Pourquoi ne vous inscrivez-vous pas, comme Geneviève Fraisse, dans la continuité d'un mouvement d'émancipation?
Mais en fait, on s'inscrit aussi parce que justement, sur quoi je vais revenir et qui me paraît intéressant dans ce que vient de dire Geneviève Fraisse, c'est que justement, nous, on a pris, c'est pas un contre-pied, mais comment dire, justement, toutes ces notions collectives, d'histoire, de collectif, et nous, on a voulu justement libérer une autre parole. Et mettre les choses en fait sur une perspective beaucoup plus individualiste, beaucoup plus libérale, beaucoup plus justement la différence, ce que disait déjà Elisabeth Badinter dans Fausse Route, qui était un des grands défauts du militantisme, c'est l'incapacité à prendre en considération et en compte la diversité du réel et donc la diversité des individus. Et donc cette autre parole qu'on a voulu libérer et qu'on a libérée parce qu'on a beaucoup de les conséquences de ces tribus ne sont pas encore terminées, c'est justement faire que les femmes que des femmes justement se reconnaissent dans notre texte, dans notre prise de position, et se disent nous ne sommes pas seules à considérer que c'est pas sous couvert, mais il y a de très bonnes intentions dans le mouvement Balance ton porc, MeToo, etc. Mais attention, on a justement au niveau historique, on a déjà vu ce genre de mouvement de déferlante qui s'inscrit justement dans ce qu'on appelle une panique morale, et qu'il peut y avoir des dérives. Il y a eu déjà des dérives. On compte au moins un suicide d'un député anglais hier ou avant-hier. Il y a une collaboratrice de Harvey Weinstein justement qui s'est suicidée parce qu'elle avait été enrôlée. Enfin, elle était aussi dépressive, mais elle a été enrôlée dans tout ce mouvement, etc. Et on peut pas, je veux dire, aujourd'hui, au 21e siècle, on ne peut pas se satisfaire justement de ces déferlantes, de ces amalgames, sans aucune prise en considération de logique très individuelle et de ressenti et de la diversité en fait des individus, quoi.
Oui, alors je lis quand même la première phrase de votre pétition pour qu'aucune ambiguïté ne soit permise. Le viol est un crime, mais la drague insistante ou maladroite n'est pas un délit, ni la galanterie une agression machiste. Donc, première réaction, en effet, c'est...
Vous nous accusez tout de suite de justifier le viol et d'être...
Voilà, et c'est, vous dénoncez d'abord, c'est en effet le risque d'amalgame, d'indiscrimination, alors que les comportements peuvent être très variés. Geneviève Fraisse.
Alors moi, j'ai de très nombreuses choses à dire au sujet de cette tribune et de la prise de parole que vient d'avoir Peggy Sastre. D'une part, pour reprendre le mot fissure, sur le fissure des féministes, depuis la parité, j'ai ce petit slogan qui est que, grâce au ciel, nous sommes suffisamment nombreuses pour être en désaccord. À mon avis, c'est un signe de maturité politique. Donc pour moi, le désaccord à l'intérieur du féminisme, l'idée que j'ai entendue 100 fois, 1000 fois au XXe siècle, qu'on n'était pas d'accord entre nous, c'est comme si on était un corps unique. Ça nous déshistoricise, et moi je suis pour l'historicité. Donc l'historicité fait que le désaccord est un signe de maturité politique. Donc là-dessus, nous n'aurons pas de problème. En revanche, j'aurais plusieurs choses à dire. Quand vous reparlez de panique morale, d'abord, ce qui manque, c'est le mot politique. C'est une affaire politique. Quand je dis c'est un événement, ça veut dire c'est un événement qui rentre dans l'histoire, c'est-à-dire qu'un enjeu politique est celui de l'égalité des sexes. Si vous parlez de morale tout de suite, moi ce que je vois, c'est deux choses. D'une part, les effets politiques que ça a pu avoir, qui ne sont pas seulement des affaires de savoir si on va tenir la porte, comme tout à l'heure, à l'entrée de la Maison Ronde ou pas, mais de savoir si, par exemple, un député ne va pas être élu en Alabama, un sénateur, parce qu'il y a, ça c'est un effet politique. Qu'il y ait une présidence au Festival de Cannes, ce qui est rare, et le problème du cinéma et des femmes réalisatrices est posé, ce sont des effets politiques. Donc, la question de la morale, moi je suis étonnée que vous revendiquiez une liberté morale, alors que vous appelez plutôt à une sorte de censure. Moi, je le lis à l'envers, votre texte. Et je le lis à l'envers, pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai appelé, vous l'avez peut-être lu, puisque 20 minutes me l'avait demandé le jour même, une ritournelle philosophique. J'ai entendu ça depuis 1800. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai analysé dans mon livre « Muse de la raison » au moment du bicentenaire. C'est-à-dire que j'ai entendu votre position il y a 200 ans déjà. C'est fin de l'amour, début de l'amitié. Il n'y aura plus que de l'amitié, dit Sénancourt. Stendhal lui répond autrement, etc., etc. C'est-à-dire l'idée qu'il va y avoir de la confusion des sexes et que j'en termine et que c'est négatif. Donc on a cette rhétorique, ce que j'appelle, ce que vous appelez une autre parole, et pour moi la répétition de cette parole. En revanche, sur la question des excès, je suis toujours étonnée que tout le monde s'intéresse aux excès. J'ai pris récemment l'image de la casserole de lait. Si la casserole de lait déborde, comme dans mon enfance, est-ce que je m'intéresse seulement à nettoyer la cuisinière ou bien au lait que j'ai mis sur le feu?
Il y a Alors, Peggy Sarr, oui. Je voudrais intervenir après vous.
Il y a deux choses. Donc, je pense en fait que dans votre lecture du texte, il y a quand même beaucoup de projections. Par exemple, j'ai dans le texte, pas dans 20 minutes, mais dans l'Obs, vous dites que nous défendons une liberté d'importuner qui est exclusive aux hommes. Jamais dans le texte il n'a écrit ça.
Ça manque. Vous avez pas fait. Sauf que vous l'avez pas dit cette phrase.
Mais oui, mais pourquoi? Justement, il y a une sorte de.
Là, c'est pas comme... une projection. Ouais, c'est juste la conséquence de votre texte.
Non. C'est une projection. C'est-à-dire, c'est une sorte de narcissisme négatif, dans le sens où quand on parle pas de quelque chose, c'est qu'on le nie. Notre phrase, c'est la liberté sexuelle. Enfin,
je répète. Voilà. En tant que femme, nous ne nous reconnaissons pas dans ce féminisme qui, au-delà de la dénonciation des abus de pouvoir, prend le visage d'une haine des hommes et de la sexualité. Nous pensons que la liberté de dire non à une proposition sexuelle ne va pas sans la liberté d'importuner.
Et avant, il y a la liberté sexuelle ne va pas sans la liberté d'importuner. C'est ça le plus important.
Oui, c'est
moi
ça.
J'aimerais quand
c'est
même ça le plus important.
Il y a quelque chose quand même d'un peu sérieux, vous citez Ruven Augien, qui vient de mourir. Nous étions d'ailleurs ensemble à son enterrement, vous et moi.
Oui,
et
le philosophe Ruven Augien, partisan d'une morale minimaliste.
Oui. Mm-hmm. Mais l'appartement, c'est la liberté d'offenser, non pas d'importuner. Je cite Denis Ramon dans Libération, qui a fait un très bon papier. Lui, c'est offenser les puissants et pas les faibles. Donc l'utilisation de Ruven Augien, en dehors du fait que, juste après sa mort, ça m'a vraiment gênée, d'autant que...
Mais Ruven Augien n'est pas présent dans la pétition, il n'est pas cité.
Il est cité dans la pétition, mais il y a aussi une erreur. J'aimerais reprendre. Et après, j'avais un autre point aussi à souligner. Donc sur Ruven Augien, moi aussi, je peux faire du pathos et dire que c'était un très bon ami et que je pense.
Non,
je voudrais finir. Et la phrase, c'est on fait un parallèle. On fait un parallèle entre ce que Ruven Augien disait de la liberté d'offenser par rapport à la liberté. Artistique. Donc on fait un parallèle avec ce bout de phrase là, avec ce paquet là, et ensuite on dit que de la même façon la liberté d'importuner est essentielle à la liberté sexuelle ne va pas sans la liberté d'importuner. C'est ça le parallèle avec Ruven Augien. Et deuxièmement, le deuxième point que je voulais souligner, vous avez tout à fait raison de dire que donc dans l'événement dans lequel on est aujourd'hui, on a un effet politique. Mais moi, l'effet politique, enfin moi et les signataires de la Tribune et les réactions de la Tribune, un effet politique quand même énorme, c'est quand même la dégradation de l'état de droit, quoi. On peut considérer qu'il y a des défauts dans la manière dont les plaintes sont prises, effectivement, etc. Mais c'est pas en revenant à des logiques de potins méchants et d'opprobre par la réputation que, enfin c'est vraiment des logiques moyenâgeuses. Après ça m'amuse qu'on nous traite de réactionnaires, hein, parce que qui est réactionnaire si ce n'est
les gens. La politique démocratique. Et c'est pas des.
Je ne suis pas d'accord. Les protections de l'état de droit ne sont pas là. Enfin, c'est pas pour faire joli, quoi.
Oui,
droit comme unique lieu du politique de la relation entre les sexes ne me paraît pas pensable.
Eh bien, on n'est pas d'accord.
Mais alors, je sais qu'on n'est pas d'accord. Laissez-moi peut-être le commenter brièvement. C'est-à-dire que depuis les années 70, notamment, pour parler d'une génération, nous sommes là dans l'idée que cette question du rapport entre les sexes, de l'égalité, de la liberté, qui sont des principes démocratiques, donc ça n'a rien de moyenâgeux, car l'égalité et la liberté ne faisaient pas partie du Moyen-Âge. Donc mélangeons pas d'amalgame.
Non, je parle de l'opprobre.
Oui, mais l'opprobre, avant l'opprobre, moi j'ai participé par exemple à la bataille pour que le viol devienne un crime et ne soit plus un délit à la fin des années 70. Mais on a eu les mêmes réactions de la part des mêmes personnes.
Attendez,
mais heureusement que c'est devenu un crime.
Attendez,
mais bien entendu,
oui,
les mêmes personnes équivalentes.
Geneviève Fraisse, j'aurais quand même intervenir sur ce point, parce que des avocates, une avocate notamment, Marie Dosé, s'est émue de ce qui se passait sur les réseaux sociaux, en disant que en matière judiciaire, sur ces questions-là, on ne doit pas échapper au contradictoire. Et il est vrai que il y a dans ce mouvement une sorte d'anti-juridisme, c'est-à-dire que l'accusation suffit, la dénonciation suffit. Et il est vrai, par exemple, qu'un ministre anglais a démissionné parce qu'il était accusé d'avoir mis la main sur le genou d'une femme il y a peut-être 15 ans de cela. Hélas, j'en viens à ma deuxième inquiétude. Elle porte sur l'indiscrimination. Par exemple, dans Le Monde, dans le dernier numéro du Monde Magazine qui est de l'année 2017, qui est donc consacré à cet événement, il est écrit ceci: des centaines de milliers de femmes ont dit moi aussi, la main posée sur la cuisse ou les épaules, moi aussi, le frottement dans le métro, moi aussi, les baisers de force dans un couloir, moi aussi, les SMS égrillards, moi aussi. Et j'ai envie de dire, mais quel rapport entre un viol, une agression et une atteinte sexuelle et un SMS égrillard? Et d'ailleurs, la personne à qui on doit le hashtag balance ton porc a voulu prêcher par l'exemple, Sandra Müller. Je rappelle le hashtag dans son intégralité: balance ton porc, toi aussi, raconte en donnant le nom et les détails un harcèlement sexuel que tu as connu dans ton boulot, je vous attends. Eh bien, elle dit, voilà, un jour, au cours d'un festival qui se déroulait à Cannes, un directeur de chaîne m'assénait, tu as de gros seins, tu es mon type de femme, je vais te faire jouir toute la nuit. Elle l'a dénoncé par son nom, il a subi des conséquences très pénalisantes, et je ne vois pas le rapport entre cette formule extrêmement vulgaire et le viol, ni même d'ailleurs le harcèlement.
Alors, j'ai deux choses à répondre. D'abord, je vois que l'un et l'autre, vous évacuez ce que j'ai appelé la question du nous. Nous sommes dans le politique, c'est-à-dire nous sommes dans la révolte d'une situation qui est insupportable. Et là, ce que je vous vois faire l'un et l'autre, c'est prendre les exemples donc du lait qui déborde, des excès, avec des exceptions, et que le nous, le pluriel, qui est... Attendez, je vais en venir à la question de la justice. Et que c'est la première réaction, c'est sur le pluriel, vous le laissez de côté, vous ne prenez que des exceptions. De ce point de vue-là, vous sortez du politique et vous sortez de l'histoire et vous passez uniquement dans la morale. C'est ce que, dans mon travail, je récuse justement en analysant cette pensée féministe depuis quelques siècles et quelques décennies. Ça, c'est la première réaction. La deuxième, c'est qu'effectivement, la justice, si vous en faites seulement, on est seulement dans un état de droit, regardez, prenez notre président de la République. 15 jours avant le fait qu'il soit forcé de faire un discours le 25 novembre, il dit c'est au cas par cas qu'on doit travailler cela dans les prétoires. Et puis, donc c'est pas une question politique. Et puis, pressé par le rapport de force, car toute politique est un rapport de force, c'est-à-dire un conflit en vue d'égalité et de liberté, là, il a changé de sujet et de discours le 25 novembre en disant, un drôle de mot d'ailleurs que j'aimerais bien analyser, c'est un fléau, etc., etc. Donc, il a pris acte que c'était pas seulement une affaire de 1 plus 1 plus 1 plus 1, mais d'un pluriel. Donc, c'est ce qui fait que la justice doit exister, mais qu'il y ait une parole politique qui se tiennent en même temps, doit être possible. Quant à le harcèlement et le viol, je dis rapidement, puisque c'était l'enjeu de votre question à venir, quand on est dans la vraie vie, en dehors de toute cette question, nous avons un proverbe ou un slogan qui dit « qui vole un œuf, vole un bœuf ». Vous connaissez cela. Nous l'avons dit dans nos enfances, etc. Donc, quand on est dans la vie normale, culturelle, banale, on peut dire qu'il y a un continuum entre des choses. Mais là, sur un sujet qui touche au sexe, qui ne doit pas faire histoire, la question du continuum, qui a été posée, je me souviens de très beaux textes de Gisèle Halimi dans Le Monde diplomatique, sur le continuum des violences. La question, pourquoi vous ne vous intéressez qu'à la main sur la cuisse, au lieu de vous intéresser aux viols qui ont mis en cause la vie? Parce que c'est la même chose.
Non, c'est pas la même chose.
Pardon, je reprends ma phrase. C'est la question du continuum. C'est-à-dire que c'est toujours l'idée qu'il y aurait... Mais que si vous faites des parties, il y a les vraies violences et les fausses violences. La question ne se pose pas là. La question est que les femmes veulent de l'égalité. Par exemple...
De très nombreuses femmes
qu'on entend depuis trois mois.
C'est vraiment le problème, comment dire, c'est vraiment le, pour le coup, là, il y a vraiment une fissure, un fossé entre deux façons de voir et de, parce que moi, et c'est aussi le un point commun avec beaucoup de signataires et de rédactrices et de rédactrices de la Tribune, nous n'avons pas de pensée politique. Ça peut vous déranger, vous pouvez trouver ça affreux, ou je sais pas, ou réactionnaire, ou je sais pas. Nous n'avons pas de pensée politique. Enfin, je vais parler pour moi-même, je n'ai pas de pensée politique dans le sens où, Quand vous me parlez là, je suis désolée, quand vous me parlez de lait sur le feu, j'entends, pareil, je vais faire vos mêmes arguments, j'entends ce qu'on entend depuis 200 ans sur les régimes totalitaires, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, on peut y avoir un peu de goulag, mais c'est pas grave, parce que le communisme, ça portait de bonnes intentions. Là, moi aussi, je peux faire des amalgames dans ce sens-là. Et justement, une des forces des Lumières et de la pensée libérale, c'est justement de remettre l'individu au centre et de remettre justement cette humanité commune qui est l'individu et qui est regarder les conséquences qu'un espèce de bulldozer comme ça politique peut avoir. Et je suis désolée, c'est très important de parler de Balance ton port et de l'instigatrice de Balance ton port. Quand elle dit, donc il y a cette personne qui d'ailleurs aujourd'hui l'attaque en diffamation, qui lui a dit je vais te faire jouir, t'as des gros seins, je vais te faire jouir toute la nuit. Elle dit qu'elle a été aspirée dans une fight passion temporelle. Je suis désolée, mais quand on veut l'égalité, et c'est mon cas entre les hommes et les femmes, quel exemple on donne aux garçons et surtout aux filles de dire que ce genre de remarque vous aspire dans une faille spatio-temporelle et vous pousse en dépression pendant 10 ans. On peut faire l'inverse.
Elles ont pas de dépression pendant 10 ans.
On ne parle pas de viol. C'est ça l'importance.
Oui, mais on est passé aux politiques et c'est vrai que c'est là où nous sommes en total désaccord.
J'aimerais terminer mon propos. Balance ton port quand on dit que ce genre de remarques peut vous faire aspirer dans des abîmes, dans une faille spatio-temporelle, etc. Je suis désolée si une femme va en soirée et est un peu bourrée et dit à un type t'as un beau cul, je vais te sucer toute la nuit jusqu'à te faire t'évanouir ou ce genre de choses. Est-ce que il y aurait un homme qui pourrait dire ça, qui pourrait dire que ça l'a aspiré dans des abîmes et qu'il a fait une dépression pendant 10 ans. Si on veut l'égalité, c'est la fin de notre texte. Si on veut l'égalité entre hommes et femmes, et c'est ce que je veux, il y a à la fois les risques et les mêmes responsabilités.
Mais pour ça, il faudrait que les situations soient les mêmes. C'est là où je reviens sur notre désaccord qui est sur le politique. Notre désaccord est sur le politique et je me permets de dire que quand je cite les 200 ans, c'est juste parce que ce sont mes travaux et non pas mes promenades. Mm-hmm. C'est-à-dire des choses que j'ai accumulées, notamment les textes du lendemain de la Révolution française, puisque c'est l'objet du livre Mise la raison. Donc, je prétends avoir là un petit savoir et pas seulement des idées qui me viendraient dans les discussions. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que précisément, si j'ai fait ce travail, c'est pour des raisons du politique. C'est-à-dire, est-ce que la question des sexes... Et là, je vais tomber plus sur mes intérêts que sur la question du contre-m. Parce que moi, la question de la liberté sexuelle est une partie des choses. C'est-à-dire que mon continuum, moi, je le vois avec l'ensemble des espaces où se trouvent les femmes. Et non pas dans un continuum entre viol et harcèlement, mais entre relations sexuelles et possibilité de l'espace public et possibilité d'indépendance politique, économique, etc. Donc, c'est une question... l'égalité des sexes, politique, avec des scansions sur le mot égalité, 17e, 18e, Révolution française et jusqu'au 21e siècle. Donc ces scansions sur l'égalité montrent que cette question du rapport sexuel et des sexualités s'inscrit dans un vaste ensemble qui s'appelle le politique et tel est le fait que ça fait histoire.
Oui, mais quand même.
Et non pas seulement morale.
Geneviève Fraisse, la politique, c'est aussi les leçons que nous tirons de l'histoire. Peggy Sastre a cité, en effet, une formule très souvent employée au XXe siècle, « On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs ». Et je me souviens d'un texte très politique d'Anna Arendt, intitulé « Les œufs se rebiffent ». Les œufs se rebiffent, oui. D'ailleurs, l'autre jour, à la télévision, une ancienne ministre du Parti Socialiste a dit que peut-être Nicolas Hulot était accusé à tort, mais par rapport à tout ce que l'on voyait aujourd'hui, ça n'avait pas vraiment d'importance. Et là, j'ai pensé à Anna Arendt, son texte politique, les œufs se rebiffent. Ensuite, il y a une autre formule qui a eu un succès dévastateur, politique, c'était la fin justifie les moyens. Or, je ne suis pas sûr, la fin de l'émancipation justifie justifie-t-il l'appel à la délation ? Par exemple, balance ton porc, ce sont deux expressions terribles, le porc et balance. Et en plus, Sandra Müller appelait à donner des noms. Est-ce que un moyen pareil peut être utilisé pour une fin comme celle de l'émancipation, ou est-ce qu'un moyen pareil ne ruine pas la fin dont on se réclame ? Je crois que ce sont des questions politiques. Quant au droit, on ne peut pas non plus l'opposer à la politique, parce que le grand mérite du droit, justement, c'est de refuser les continuums et d'établir des distinctions entre les délits et les crimes, entre ce qui relève de la justice et ce qui n'en relève pas. Et il me semble que, lutter contre les conduites barbares en sapant les fondements mêmes de la civilisation, c'est un paradoxe, parce que être civilisé, c'est distinguer et distinguer encore. Oui, que l'on parle du droit ou que l'on parle de politique, je ne vais pas.
Effectivement, vous interprétez la question du rapport droit-politique d'une manière intéressante, mais qui n'est pas celle que j'ai prise, qui est que dans un moment d'histoire, que le droit ne soit pas suffisant. Et en plus, ce droit-là, nous le connaissons bien. Nous connaissons les statistiques. Nous savons combien de fois le viol a été disqualifié en harcèlement. Nous savons combien de fois des viols avérés se sont terminés en non-lieu, se sont terminés. Ça, c'est quand même des choses là, des chiffres sont gigantesques. Ce qui m'étonne toujours, c'est que l'un et l'autre, vous prenez l'exception contre la règle. Ce qui doit être mis dans le panier de la révolte des œufs, comme vous dites, le texte que je ne connais pas est sans doute magnifique, et je ne serai pas contre ce texte. Simplement là, quand quelque chose doit être estimé vu comme du politique, c'est-à-dire quelque chose qui peut profondément changer la société, c'est vraiment important de s'y mettre et de regarder ce qui se passe. Si vous ne vous intéressez encore une fois qu'aux excès, non pas, alors là, avec l'exemple, effectivement, du stalinisme, vous me direz, mais sauf que le lait qui était dans la casserole était aussi victime du stalinisme. Mais là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que les femmes en aient marre. Prenez la littérature du 19e siècle. Elle n'est faite que de viol. Elle n'est faite que de situations d'oppression et d'exploitation du corps des femmes. C'est vraiment intéressant. Et nous en profitons et nous aimons ça. L'opéra aussi. Et nous aimons cela, le lire, etc. Mais si l'histoire nous propose autre chose, mais moi je suis enthousiaste et curieuse de voir la suite de l'histoire. Parce que la suite de l'histoire pourrait être passionnante. Et elle serait et politique et juridique. Mais simplement, si on oppose le juridique au politique, effectivement on s'y perd. Et il faut savoir reconnaître ce qui, à mon avis, est le plus difficile dans le travail que j'essaye de mener depuis longtemps, c'est que c'est une affaire d'historicité et de politique. Tout le monde veut toujours en faire quelque chose d'atemporel et de non politique.
Peggy Sastre.
Je crois que je vais dévier, enfin je vais changer un peu l'orientation de pour l'instant de la discussion, parce que on va pas se mettre d'accord, et surtout vous me ferez pas avoir un esprit politique que je n'ai pas, que je me force, je fais plein d'efforts, je lis, je me documente, etc., mais cette pensée politique ne me vient pas. Et un aussi des gros problèmes qu'il y a encore avec le mouvement, l'événement dans lequel nous sommes aujourd'hui, de Balance ton porc, de MeToo, etc., c'est qu'en fait, sous couvert, en fait, on prétend en fait justement renforcer les femmes, etc., alors qu'on les met encore une fois dans une position de vulnérabilité, et surtout sur un sujet qui, je pense, Geneviève Fraisse va vous mettre la puce à l'oreille, sur la question du consentement. Il y a une phrase féministe que je prends, que j'accepte, que je fais mienne, qui est non, c'est non. Mais en fait, si non, c'est non, effectivement, non, c'est non, mais aussi oui, c'est oui. Et aujourd'hui, on voit des femmes qui elles sont justement incitées par certains mouvements féministes à rappelez-vous, dans votre passé, peut-être que quelque chose vous est paru anodin, mais en fait, c'était pas anodin. Là, le problème, en fait, c'est que on dit que le consentement, en fait, n'a pas d'importance, et qu'on peut le révoquer et 15 ans plus tard dire ah bah finalement non, j'étais mal à l'aise et j'ai été forcée, etc. Et quand on prend le consentement au sérieux, on le prend dans les deux sens, à la fois au niveau du non et au niveau du oui.
Alors je répondrai volontiers.
Je répondrai volontiers
parce que effectivement, j'ai choisi il y a une dizaine d'années d'écrire un livre sur le consentement et d'aller retrouver en gros là encore une fois la généalogie et trois siècles de de réflexion. Et si vous voulez, le mot de consentement pose des problèmes que j'assume tout à fait aujourd'hui. C'est-à-dire, non pas que je pensais pas avant, mais dès qu'on ouvre un dictionnaire, on sait que c'est un double sens, consentement. C'est à la fois choisir et accepter. C'est à la fois vouloir et n'en pouvoir mais. Donc, à partir de là, ce mot-là, depuis 3 siècles, pose un problème. Alors, il a traversé le consentement mutuel, qui est une forme d'égalité, via le divorce. Il a traversé la fin d'un consentement asymétrique. Le papa consent à ce que la fille soit mariée à X ou Y, etc., etc. Donc, le consentement a bougé, mais ça reste un terme extrêmement difficile et, à mon avis, qu'il faudrait peut-être abandonner. Bien que les juristes me disent, c'est pas possible. Et ça, j'ai eu quelques conversations.
Vous le remplaceriez par quoi, alors?
Alors, effectivement, à l'époque, il y a 2 ans, j'avais dit, tiens, si on avait le mot volonté, mais ça n'a rien à voir, mais il y a aussi le mot accord, agreement, c'est-à-dire je suis d'accord, qui seraient des mots où l'ambiguïté du mot consentement, mais cela dit, ça vaut le coup d'aller voir le mot consentement, parce qu'on y apprend notre histoire.
Alors, j'aurais vous poser une question à toutes deux, cette fois-ci. La philosophe Manon Garcia a dit qu'il faut sortir du non-dit et du non-refus. Et elle nous invite à suivre l'exemple des universités californiennes qui sont obligées, si elles veulent recevoir des subventions publiques, d'inscrire le consentement positif dans leur règlement intérieur. Cela revient, écrit-elle, à inverser la charge de la preuve. Ce n'est plus à la victime de prouver qu'il y a eu harcèlement, mais à l'agresseur d'amener la preuve d'un consentement communiqué de la manière la plus claire. Est-ce que on doit sortir de l'implicite et, je ne sais par quelle manière, sur une application téléphonique, donner un consentement positif pour que on puisse être sûr de ce que vous appelez, Geneviève Fraisse, l'agreement?
Alors, cette phrase dit 2 choses. La première, c'est que cette histoire californienne que je connais, mais qui est en même temps en débat législatif aujourd'hui en Suède, puisqu'il serait question, mais ça renvoie aussi à Rousseau, qui dit lui-même, il y a « je vois le désir et il va falloir que j'ai la vue ». C'est Rousseau lui-même qui fait un dédoublement des textes, donc du consentement. Ça, c'est la première chose. La seconde, sur l'inversion de la charge de la preuve. Alors moi, je suis extrêmement intéressée par ça, parce que c'est une directive de 97 européenne qui était pour les... C'est bien de parler d'autre chose aussi que de sexualité, qui est le harcèlement ou les discriminations au travail, et où si on fait une inversion de la charge de la preuve, c'est au patron de dire quelle bonne raison il a de licencier ou de discriminer une femme. Et donc cette inversion de la charge de la preuve, qui arrive sur le plan plus imaginaire que judiciaire d'ailleurs, est assez passionnante. C'est-à-dire les hommes vont être impliqués, et je les ai tous vus impliqués ces temps-ci, avec beaucoup, beaucoup de discussions passionnantes.
Alors j'ai un mot simplement sur la discrimination salariale. Elle est sévèrement proscrite en France. Et si le patron, le chef d'entreprise, se rend coupable, non seulement il va dans les prud'hommes, mais il va en correctionnel où il est passible de prison. Mais pays sastre.
L'inversion de la charge de la preuve, moi j'aimerais parler de l'inversion du féminisme, dans le sens où historiquement et un peu une histoire relativement récente, si on prend les suffragettes qui justement voulaient que les femmes aient le droit de vote, etc. Elle disait que les femmes étaient tout aussi capables, tout aussi fortes, tout aussi, enfin bref, qu'elles n'avaient pas de différence des caractères, que ce n'était pas des faibles femmes, etc. Et aujourd'hui, on observe en fait justement une inversion du féminisme qui incite en fait les femmes à se considérer comme des espèces de victimes totales et de se méfier du quotidien et de je fais une petite expérience de psychologie sociale de comptoir. Quand je prends le métro, je vois les féministes en fait. Je les vois avec leurs casques. Elles ont les épaules comme ça rentrées et elles se mettent d'elle-même dans une posture de proie, je veux dire, et ça pour le coup, ça ce sont des grandes études de psychologie sociale qui montrent en fait que un psychopathe est capable sur des vidéos de repérer par la posture quelle personne, homme ou femme, a été précédemment victime d'une agression. Et en fait, il n'y a pas, mais ça aussi c'est immémorial, il n'y a pas de meilleur outil pour asservir les femmes que de leur donner la peur du loup.
Et ça c'est une question justement.
Mais vous croyez qu'on leur donne la peur du loup ou vous croyez qu'on leur donne la possibilité de dire je dans cette histoire de ou nous dans cette histoire d'il y a trois mois. Moi j'entends de l'émancipation et pas du tout de l'oppression. Je n'entends pas la victime. J'entends celle qui n'est pas victime et qui dit je cesse d'être victime.
Moi c'est l'inverse. Moi c'est une autre perspective. Moi j'entends les femmes. On leur dit mais rappelle-toi il y a 10 ans, il y a 15 ans.
Elles se disent
pas tout seules. Vous dites depuis le début que c'est un mouvement politique, c'est un mouvement collectif, etc. Il y a des militantes, il y a des associations, il y a des...
Mais c'est joyeux, le féminisme, c'est pas triste.
Mais ça dépend, en
non,
fait.
C'est
ça
extrêmement
dépend,
joyeux.
Ça dépend.
C'est extrêmement joyeux,
alors,
ça dépend.
Il y a un autre aspect sur lequel je voudrais revenir, d'ailleurs je crois qu'il y est fait mention dans votre tribune, Peggy Sastre, qui est le rapport aux œuvres du passé. Le risque, ou peut-être la chance... d'une réécriture. J'ai noté, Geneviève Fraisse, que vous vous réjouissiez dans cet entretien avec Raphaël Glucksmann que l'on puisse changer la fin de Carmen, puisque c'est l'initiative de l'Opéra de Florence, c'est Carmen qui tue Don José. Et l'homme qui est à l'initiative, d'ailleurs, qui a voulu cela, dit ben, « Ce n'est plus possible aujourd'hui d'applaudir la mort d'une femme. » Comme si les spectateurs de Carmen applaudissaient la mort de Carmen. Mais là, moi, je suis très, très étonné de votre appréciation, Geneviève Fraisse. Vous dites « c'est pas de la censure, c'est de la transgression. » Parce que quand même, qu'est-ce qu'un classique ? C'est un texte qu'on aborde avec une ferveur préalable et une mystérieuse loyauté, disait Borges. Les classiques nous lisent. Alors là, c'est comme si nous n'avions plus besoin d'être lus parce que nous avons la science infuse. Nous savons ce qu'il en est de l'égalité et donc nous surplombons le passé, nous le regardons de haut. Les metteurs en scène ne se mettent plus au service de l'œuvre. Ils mettent les œuvres, qu'il s'agisse d'opéra ou de théâtre, au service de leur vision du monde. Cela se fait de plus en plus. Et donc, je trouve là qu'il y a une sorte d'ivresse, d'immodestie, d'ethnocentrisme du présent. Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. Nous savons ce qu'il en est du rapport entre les êtres. Et nous convoquons les œuvres. Et celles qui passent le test, eh bien, ça va. Celles qui ne le passent pas, nous nous permettons de les réécrire. Et je trouve cette attitude très alarmante.
Puis-je répondre, pardon. Nous ne sommes pas à la fin de l'histoire. Nous sommes dans l'histoire. Et c'est ça que je dis. Je ne dis pas que nous sommes à la fin de l'histoire. Je vais vous prendre un exemple que j'ai travaillé, pour ne pas prendre des exemples lointains. Un exemple que j'ai travaillé, c'est la question du chant des sirènes et des sirènes d'Homère. Très bien, l'Odyssée, nous connaissons le texte. Est-ce qu'il a été respecté, ce texte, au cours de l'histoire ? Je prendrai seulement la période qui m'intéresse, toujours l'ère démocratique. À partir du lendemain de la Révolution française, de cette ère démocratique qui est imaginaire avant d'être institutionnelle, nous avons la lecture que j'ai pu faire de ce que devient le chant des sirènes à travers Ondine, de la Motte Fouquet, en passant par le Conte d'Andersen, en passant par Oscar Wilde, en passant par Kafka, en arrivant jusqu'à Blanchot et en continuant encore. C'est une transformation du récit et que j'ai, pour ma part, dans le travail que j'avais fait sur le chant des sirènes, il y a déjà ça un certain temps, analysé comment il était effectivement en apport quand la sirène décide d'abandonner son chant pour pouvoir aimer le pêcheur. C'est pourquoi ? Parce qu'il faut qu'elle ait une âme pour aimer le pêcheur, c'est-à-dire qu'elle soit un individu quand elle n'était pas un individu. Donc je peux prendre, nous sommes dans l'histoire.
Oui, mais c'est des interprétations là. C'est-à-dire qu'on peut interpréter de manière très différente. On est dans l'herméneutique. Là, on est tout simplement dans la réécriture.
On est dans l'écriture. Qu'est-ce que vous croyez quand Oscar Wilde écrit ou Andersen écrit ? C'est pas de l'écriture, c'est de l'écriture pure. Quand Kafka fait Le silence des sirènes, c'est pas de l'écriture.
Oui, mais c'est son œuvre à lui. Il dit pas c'est Homère. Alors que là, tout d'un coup, je prends Carmen et je change.
Oui, mais ce que je vois, c'est que moi, je m'adresse là aux réactions et non pas exactement aux mots qu'a employé ce metteur en scène, mais aux réactions qui m'ont paru être là, pour le coup, une histoire immobile. Alors que moi, je pense que l'histoire est mobile.
Peggy Sastre, sur ce thème.
Sur ce thème que je trouve vraiment affligeant, et dans le sens, il y a une confusion, en fait. J'ai entendu tout ce propos que c'est que la réécriture de Carmen est très transgressive, pardon.
Mais on observe, on assiste quand même aujourd'hui à une espèce de métamorphose de la pensée sous l'effet des réseaux sociaux, sous l'effet de cette espèce de masse faussement bienveillante et qui en fait rappelle, enfin je vais encore parler de panique morale. Tous les mouvements, un mouvement très récent dans les années 90 aux États-Unis contre la pédophilie, on a mis plein de gens en prison parce qu'on disait qu'ils avaient fait des cérémonies satanistes pédophiles avec des enfants, etc. Ça s'est révélé faux. Aujourd'hui, là, le dernier couple qui vient de sortir de prison a eu en dommages et intérêts, je crois, 27 millions de dollars parce que sa vie a été foutue. Et ça, ce que je voudrais dire, c'est que c'est quand même vraiment absurde de considérer que c'est une transgression, que c'est progressiste, alors que c'est vraiment bas du front.
Ça,
alors,
est-ce que je peux vous poser une question,
Geneviève Fraisse?
Est-ce que vous pensez que depuis quelques siècles, et c'est même ces dernières décennies, le traitement du viol est correct dans nos sociétés? C'est une question. À ça, il faut répondre.
Il n'est pas correct, mais il s'améliore, en fait. Les violences sexuelles diminuent.
C'est quand même...
Et la prise en charge dans les...
Vous connaissez les pourcentages?
Tout à fait, je les connais bien, oui.
Vous connaissez les pourcentages de viols qui arrivent à terme d'un procès?
Mais les délits sexuels sont les plus importants qui sont traités par les tribunaux.
Un tiers de criminels sexuels dans les prisons, alors que ça...
Mais là, je vous parle des plaintes pour viol. Je vous parle pas du résultat de ce qu'il y a dans les prisons. Je vous parle... Parce que si on n'est pas seulement... Effectivement, la criminalité a aussi diminué, nous a-t-on dit, en général, et pas seulement sexuelle.
Le crime sexuel est aussi un crime très difficile à prouver, justement.
Je mélange pas tout. Je suis en train de vous demander, pour avoir un peu suivi ces affaires-là, comment vous pensez... Pensez-vous que notre société est ouverte à la réception des plaintes pour viol?
Je vous réponds, elle est de mieux en mieux.
Ah bah, de mieux en mieux, vous pouvez toujours répondre ça, oui. Ça,
non,
c'est
mais
non,
quand
c'est
même,
clair,
je,
parce que j'ai participé aux luttes pour non, que le viol devienne un crime et non plus un délit.
Je vous remercie pour mieux en mieux. Geneviève Fraisse, il y a un problème aussi, c'est-à-dire que souvent c'est parole contre parole, la justice a du mal à se prononcer, quelquefois les personnes qui portent plainte quand il s'agit de viol conjugal refusent d'aller plus loin parce qu'elles ne veulent pas que leur compagnon aille en prison, et la justice traite ces cas. Il faut quand même savoir que la plupart des magistrats aujourd'hui sont des magistrats, donc je ne vois pas, moi, que la justice française aujourd'hui témoigne la moindre indulgence pour ce genre de crime, même si, comme vous le dites, il y a des progrès à faire.
Et
on peut aussi parler
justement.
Vous m'étonnez, votre optimisme tous les deux m'étonne énormément.
Mais
c'est pas une question d'optimisme, c'est les faits.
Ah bah non.
Je voudrais vous poser une question aussi, Peggy Sastre, c'est-à-dire sur cette question du retour du puritanisme, parce que c'est un des thèmes essentiels de votre texte. Et là, j'entends très bien ce que dit Geneviève Fraisse depuis le début de l'émission et dans ses livres. Je ne crois pas aujourd'hui que l'obsession des féministes qui se reconnaissent dans ce mouvement, ce soit le péché. Hein, il ne s'agit pas de poursuivre le combat ancestral de l'esprit contre la chair, il s'agit de mettre fin à la domination et d'introduire plus d'égalité et de transparence dans les rapports entre les sexes. Moi, je ne sais pas s'il faut y voir un progrès ou une nouvelle version de l'avenir radieux, si vous voulez, façonner un être humain nouveau. Et justement, je pense aussi à ce texte de Caroline de Haas, « Les porcs et leurs alliés s'inquiètent, c'est normal, leur vieux monde est en train de disparaître, très lentement, trop lentement, mais inexorablement. » Annonce d'un nouveau monde, et on peut dire que vous avez protesté au nom du vieux monde, et peut-être de la condition humaine, contre la tentative de façonner un être humain nouveau. Mais je ne vois pas ce que le mot de puritanisme apporte dans ce débat. Je ne suis pas sûr que c'est de cela qu'il s'agisse vraiment, dans l'ambition politique dont Geneviève Fraisse a voulu donner l'illustration ici.
Donc une première question, vous êtes en train de dire que les signataires de la tribune portent le vieux monde, portent la parole du vieux monde, c'est ça? C'est ce que, si j'ai bien compris?
Oui, mais moi j'y vois. Mais moi, vous savez, je pense que
je ne suis pas d'accord.
Je suis pas
mais
pour
okay,
le vieux monde. Le vieux monde, c'est pour moi aussi la civilisation.
D'accord.
Comme
d'accord,
je pense beaucoup en termes politiques, la volonté de créer un monde nouveau m'inquiète plus qu'elle ne me réjouit. Donc, c'était pas du tout une critique. C'était simplement, je ne crois pas que le mot de puritanisme s'applique
au type de féminisme que vous mettez en question.
Bah pour le coup, je récuse que nous parlons pour le vieux monde, mais c'est une autre question, et j'assume cette mention du puritanisme. Et là-dessus, je vais citer Samantha Geimer, donc, qui a été entre autres violée par Polanski quand elle avait 13 ans et qui a signé notre tribune et qui a fait une autre tribune dans le monde pour la soutenir, qui dit « Je ne suis pas d'accord avec l'idéologie puritaine qui explique aux femmes que le sexe leur fait violence et qu'il est capté par les hommes, qu'elle se résume à leur vagin, à leur corps, d'après les critères que les hommes qui les touchent ont fixés. Il faut enseigner aux jeunes femmes d'aujourd'hui que la sexualité est quelque chose de sain, de normal, de nécessaire. Ce qui change une vie, ce n'est pas une expérience douloureuse, c'est notre résilience. Toute cette haine, cette revanche ne nous guériront pas plus qu'elles n'effaceront le passé. » Et ensuite, je voudrais ajouter ça, que on a arrêté la libération sexuelle dans le sens où la libération sexuelle en fait a deux éléments. Le premier élément, c'est évidemment la libération sexuelle dans le sens plus de contraintes morales sur les relations sexuelles entre individus. Mais le deuxième mouvement, en fait, c'est ce que disait Marcia Yacoub au début de ses travaux, c'est on ne libère pas la sexualité sans se libérer nous-mêmes du sexe, en fait. Et c'est ça le puritanisme. Le puritanisme, c'est faire de la sexualité une exception. Et ce que porte une partie des féministes aujourd'hui, je suis féministe, mais je ne fais pas partie de ces féministes-là, c'est considérer que le sexe, en fait, la sexualité serait grave en général et pour les femmes en particulier.
Alors, je rappelle simplement que Roman Polanski conteste l'accusation de viol, puisque, il faut rester juridique un peu. Mais peut-être a-t-il été violé, mais peut-être Samantha Gettner a-t-elle violé. Roman Polanski conteste cette accusation. Geneviève Fraisse, maintenant vous répondez.
Mes 50 ans de féminisme ne m'ont pas convaincue du puritanisme des féministes, y compris chez moi-même, mais bon, ça c'est un témoignage personnel. Et franchement, ça me fait rire. Mais je vais redevenir sérieuse. J'avais fait un texte au lendemain de Muse de la Raison, c'est-à-dire en 91, il y avait un colloque sur l'antiféminisme à Beaubourg, qui s'appelait « De l'incompatibilité supposée entre l'amour et le féminisme, et entre l'érotisme et le féminisme, etc. etc. » C'est-à-dire qu'on nous suppose ne pouvant pas être sexué et sexuel dans le féminisme. C'est-à-dire que c'est un texte qui nous est envoyé et non pas que nous envoyons. Et ça dure pour moi, non seulement depuis mes 45 ans de cette vie-là, mais aussi depuis, je le redis, les années du lendemain de la Révolution française. Et alors j'en profite, puisque vous me donnez la parole aujourd'hui, pour citer un texte que j'avais cité dans mon livre Le Consentement, et que nous avons réédité avec les éditions Équateur, de Laclos, de l'éducation des femmes. Pourquoi j'ai envie de le citer? Il paraît un an après les Liaisons dangereuses. Nous connaissons, c'est une des bibles des anti-puritains, on est d'accord. Et moi j'ai répondu plusieurs...
C'est aussi... La Bible de tout le monde. Un des plus beaux grands livres de la littérature française.
On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Mais alors moi, j'offre au lecteur, je l'avais trouvé, mais il était plus disponible, donc maintenant il est à nouveau disponible. Lisons ce texte qui est d'un féminisme, d'une radicalité totale. C'est du 100% féminisme. On est en 83. Il appelle les femmes à faire la révolution. Il les prend pas pour des victimes, mais il dit qu'elles ont été des esclaves. Et c'est très clair, parce que venez apprendre comment, née compagne de l'homme, vous êtes devenue son esclave. Apprenez qu'on ne sort de l'esclavage que par une grande révolution. On est en 83. Cette révolution est-elle possible? C'est à vous seul de le dire. C'est exactement ce que nous vivons en ce moment, le à vous seul de le dire. Et je vous cite un passage où il explique que consentir et céder, ça va ensemble. D'ailleurs, des textes, des débats féministes d'anthropologie avec Nicole-Claude Mathieu sont ressortis avec cette chose-là. Consentir et céder, mais qu'à la suite de ça, de l'histoire a commencé. Et que cette histoire, c'est l'histoire de rapport entre séduction et esclavage. Et il dit très bien, cet état durera dans toute sa force jusqu'à ce que l'expérience d'une longue suite de siècles leur eût appris à substituer l'adresse à la force. Elles sentirent enfin que puisqu'elles étaient plus faibles, leur unique ressource était de séduire, etc., etc. Et il appelle à la révolution. Voilà de l'historicité chez pas n'importe qui. Nous sommes bien d'accord, Alain Finkielkraut.
Oui, nous sommes d'accord, mais Madame de Merteuil n'était pas une faible
féministe.
Femme. Il y avait quelque chose de très souverain chez elle.
Et là, c'est le rapport entre les deux textes qui est intéressant.
Oui, c'est vrai.
C'est pas l'un texte ou l'autre. C'est qu'à un an de distance, Laclos, qu'on connaît aussi pour soutenir les femmes qui veulent rentrer dans la franc-maçonnerie, etc., etc., Laclos, un an de distance, met ces deux textes dans les mains de ses lecteurs. Même si ce texte est paru apparu après. C'est important quand même.
Mais oui, mais vous dites nous.
Par rapport au puritanisme qu'on nous prête.
Oui, moi, encore une fois, cette critique, en effet, ne me semble pas pertinente. Mais enfin, Peggy Sass la reprend. Il y a un autre problème que je voudrais aborder dans les minutes, dans les quelques minutes qui nous restent, c'est disons celui d'une pensée peut-être trop massive. J'ai entendu Agnès Varda dire que l'humiliation est toujours du côté des femmes. Les femmes se révoltent, les femmes s'émancipent, les femmes se libèrent. Comme s'il n'y avait pas d'hommes maltraités, d'hommes tournés en bourrique, d'hommes jetés, disons, quand ils cessent de plaire, sans ménagement et de manière extrêmement brutale parfois. Donc là encore, là j'en reviens effectivement à ce que disait Peggy Sass, ne faut-il pas, dans ces questions-là, ces questions intimes, faire la place aux réalités individuelles? Sinon on tombe dans un manichéisme, dans une pensée binaire qui nous fait peut-être manquer la réalité des choses, cette réalité que précisément la littérature ne cesse de nous rappeler en tant que jurisprudence de la vie humaine.
En une phrase simple, toute révolte va subir ce reproche de binarité, que ça soit une révolte ouvrière ou autre chose. Toute révolte va subir ce reproche. Maintenant, de la révolte, c'est-à-dire quelque chose qui énonce un conflit parce qu'il y a un rapport de force, c'est ça qui est dit. Donc, cette binarité n'est que la conséquence de la révolte. Mais la révolte, c'est comme la casserole de lait, la révolte, elle est là.
Peggy Sass.
Je crois qu'il y avait qu'il y a Philippe Roth qui dit quelque chose, je le cite mal, mais qui est la collectivisation de la souffrance, c'est l'autorité.
Quand on généralise la souffrance, on a le communisme. Quand on particularise la souffrance, on a la littérature.
Voilà.
J'ai épousé un communiste.
Et entre les deux.
Et entre les deux quoi?
Entre les deux quoi?
Entre la révolte et la politique, c'est ça?
Je vous laisse répondre.
Ah non, je ne suis pas là pour répondre. Bah, nous en restons donc à cette question entre les deux, Geneviève Fraisse. Oui. Alors, je voudrais rappeler que vous venez de publier La Fabrique du Féminisme aux éditions Le Passager Clandestin et que vous avez préfacé également, Geneviève Fraisse, de Laclos, de l'éducation des femmes aux éditions Équateur. Et Peggy Sass, vous êtes entre autres l'auteur d'un livre qui s'intitule, ce titre peut avoir quelque chose d'un peu effrayant, « Comment l'amour empoisonne les femmes », c'est votre dernier ouvrage.
Tout à fait.
Il est publié aux éditions Anne Carrière. Vous trouverez toutes les références bibliographiques sur les sites réplique franceculture.fr où l'émission est téléchargeable pendant un an et écoutable à vie. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « L'islam, une religion française ?» Point d'interrogation. Mes invités seront Philippe Diribarne et Hakim El-Karoui. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Pascal Bénard. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet.